Nous allons lire dans Philippiens au chapitre 3, à partir du verset 12. Philippiens 3, à partir du verset 12. Philippiens 3, à partir du verset 12. Il est écrit ceci. Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc pour le saisir là, il s'agit de Jésus. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce que dit notre frère Paul. Il dit qu'il n'a pas encore, à l'époque, donc il n'avait pas encore atteint la perfection. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Voilà notre premier enseignement. Mais je cours pour atteindre cette perfection-là, c'est-à-dire saisir Christ, être comme Jésus. Et nous lisions dans Éphésiens 4, donc le livre juste avant Philippiens, Éphésiens 4. À partir du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Quel est l'objectif de Dieu en donnant les apôtres, les docteurs et les prophètes? Donc, c'est-à-dire que il y a des dons spirituels, mais il y a aussi des dons humains. Et ces gens-là sont des dons humains que Dieu a fait à son Église afin d'amener chaque chrétien à la perfection, à atteindre la stature de Jésus lui-même. Donc nous allons parler de la perfection et des modèles. Donc en lisant les deux textes précédemment, nous avons vu que c'est l'objectif même de Dieu que chaque chrétien atteigne la perfection. Puisque dans Philippiens 3, donc Paul reconnaît qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Mais il dit « je cours quand même ». Voilà. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas atteint la perfection qu'on doit s'arrêter. Donc on doit toujours courir. Puisque c'est l'objectif même de Dieu dans Éphésiens 4, Paul explique aussi que Dieu a établi des humains pour conduire son troupeau à la perfection. Donc la perfection, c'est quelque chose de voulu par Dieu. C'est vrai que nous sommes sauvés par grâce, nous connaissons la théorie, nous sommes sauvés gratuitement, ce n'est point par nos œuvres. Mais nous ne sommes pas sauvés pour rester comme on était avant, Nous sommes sauvés pour devenir comme Jésus lui-même. C'est ça l'objectif. Donc même si sur terre, peut-être nous n'atteindrons pas la perfection, ce verset nous appelle à courir toujours, à aller atteindre, à chercher à atteindre cette perfection-là, bien sûr, par les moyens que Dieu nous donne. Et une des séries de ces moyens, c'est les circonstances. Dieu va créer des circonstances pour nous amener à la perfection. Quelqu'un qui nous parle mal, quelqu'un qui nous critique. Tout ça, c'est fait pour nous amener à la perfection. Une voiture volée. Comme nous, on devait chanter le 21 juin. Les nuages qui remplissent le ciel. Vous vous dites, mais bon, s'il pleut, tout le matériel est abîmé. Mais finalement, il ne pleut pas jusqu'au bout. Mais le suspense et demeure jusqu'au bout. Vous avez toujours les nuages sur vous, mais il ne pleut pas. Dieu vous exauce, mais en vous laissant dans une sorte de suspense pour vous aider à atteindre la perfection. Toujours croire. Parce que s'il enlève les nuages, on est à l'aise. Bon, c'est bon, on n'a plus besoin de foi. On va exprimer notre force de chant. Mais quand il y a toujours les nuages, on est toujours concentré sur Dieu. Dieu, nous avons besoin de ton aide. Tu chantes, mais dans ton cœur, tu dis, j'ai besoin de l'aide de Dieu. Parce que s'il pleut là, tous les haut-parleurs allaient abîmer. Donc c'est ça, Dieu va permettre des circonstances pour nous maintenir, pour nous faire courir vers la perfection, pour nous aider à entrer dans la perfection. Mais il y a aussi le fait tout simplement qu'il le désire aussi, qu'il nous a donné ça comme une instruction. Il faut aller, soyez parfaits, le Seigneur a dit dans Matthieu 5, comme votre Père Céleste est parfait. Donc c'est aussi une instruction, rien que parce que c'est une instruction, nous devons nous-mêmes courir vers cette perfection-là. Et en plus de cela, lui-même Dieu va travailler à cela et il a donné un troisième chose, c'est tous ces ministères, apôtres, docteurs, pasteurs, pour, à travers la parole, nous amener à la perfection. Donc Dieu lui-même travaille aussi à travers ces gens-là. Et l'Esprit Saint aussi nous met la pression pour être parfait. Voilà, l'Esprit Saint aussi fait ce travail-là de nous déranger, même si parfois on peut vouloir se donner raison, mais l'Esprit Saint vient nous réveiller pour dire « Non, tu as tort, il faut que tu demandes pardon, tu as tort, ce n'est pas ça qu'il fallait faire, va rendre l'argent. » Voilà, donc c'est l'Esprit Saint aussi travaille à notre perfectionnement. Mais on remarque aussi que notre chair cherche à être aussi parfois parfaite, mais dans le mauvais sens. Parfait, donc la chair veut nous pousser à être parfait pour qu'on se sente bien. Ce n'est pas la perfection qu'on reçoit de Dieu, mais c'est une perfection construite par nous-mêmes afin qu'on se sente fort. Finalement, c'est une fausse perfection parce qu'elle nous crée en nous l'orgueil. Ce n'est pas de cette perfection-là que nous parlons. Nous parlons de la perfection voulue de Dieu afin que nous soyons son image. Et l'image de Dieu doit être belle, simple, humble, comme Dieu lui-même est. C'est cela. Et on se souvient, bien-aimés, que nous avons été créés à l'image de Dieu, mais cette image s'est altérée par le péché. Et vous souvenez de la définition du péché. Le péché, c'est rater l'objectif, rater la cible. Donc, il y a un objectif qu'on n'a pas atteint. Et c'est ça le péché. Donc la perfection et le péché sont opposés. La perfection, c'est justement atteindre l'objectif, puisqu'on va voir la définition de la perfection, c'est faire jusqu'au bout, faire complet. C'est ça la perfection. Et le péché, c'est justement l'inverse. Je ne vais pas jusqu'au bout, je ne suis pas parfait, je n'atteins pas l'objectif. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins le souci d'être dans la perfection, soit consciemment, soit inconsciemment, pour deux raisons essentielles, essentiellement. Premièrement, les échecs. Voulant atteindre la perfection, il y a des embûches et il y a des échecs de parcours qui nous ont amenés à entrer dans une philosophie de fatalisme en se disant, bon, de toute façon, la perfection, il n'y a pas sur terre. Bon, on attend juste, bon, que le Seigneur vienne nous sauver. Et surtout quand on connaît la théorie, qui est la vraie, c'est la vérité, que nous sommes sauvés par grâce, on se dit, bon, je meuble le temps jusqu'à à ma mort, jusqu'au retour du Seigneur, je vis comme ça, comme un oiseau. Et puis, voilà, le Seigneur, puisqu'il nous sauve par grâce, il me sauvera à son retour. Ce n'est pas bon. Les échecs sont là pour nous aider à nous humilier et non pas pour nous freiner. Donc, ce n'est pas bon d'arrêter de courir vers la perfection, d'arrêter de désirer la perfection parce qu'on a échoué à atteindre cette perfection-là. Parce que le diable sans cesse nous rappelle que ça fait mille fois qu'on demande pardon pour le même péché et on se dit, bon, je n'y arriverai jamais et je laisse. Non. Ça, c'est une attitude de défaite. Ce n'est pas l'attitude de vainqueur que Jésus nous donne. Souvenez-vous, il y a cette église auquel Jean écrit dans Apocalypse, et il est dit à 6, donc en conclusion, à celui qui vaincra, je donnerai telle chose. À celui qui vaincra. Donc Dieu nous appelle à vaincre, à être des vainqueurs, et nous ne pouvons pas tomber dans le fatalisme en disant, bon, c'est trop dur, ce n'est pas pour moi, c'est autrefois que ça se faisait, aujourd'hui, la société est tellement mauvaise et difficile que je ne peux pas vivre la sainteté de Dieu. C'est faux. Ça, c'est une attitude de découragement, d'incrédulité qui va conduire à la mort spirituelle aussi. C'est dangereux. Et l'autre raison, c'est la divinisation personnelle. Aujourd'hui, l'orgueil est tellement élevé dans l'homme puisque l'homme a atteint un certain palier dans le développement économique et technologique qui fait qu'il a de moins en moins la crainte de Dieu. Donc même si on dit qu'il y a la sécheresse dans un coin, vous allez partir dans ce coin-là, vous allez trouver qu'il y a beaucoup d'eau dans les robinets, il y a des piscines. Une fois, j'ai été dans une région de France pendant les vacances, et il y avait une grande piscine dans ce site-là. Il y avait de l'eau à profusion. Et quand je reviens à Rouen, je regarde les infos, on dit que là d'où je venais, il y avait la sécheresse. Je dis, mais moi, je viens de là-bas, il n'y a pas la sécheresse, il y a de l'eau qui coule. Mais parce que l'homme a réussi à magasiner de l'eau, l'homme a réussi à évoluer de telle manière qu'il ne dépend plus de, il ne dépend pas à 100% plutôt des intempéries, du climat. Donc, il peut faire, malgré le climat, qu'on se sente bien. On peut être en Russie, là où il fait moins 20, moins 30 degrés, mais ne pas avoir froid. Pour tout simplement parce que l'électricité est presque gratuite en Russie et toutes les maisons sont bien équipées, les places publiques. Donc tu sors de chez toi, tu entres dans la voiture, c'est chauffé. Au Canada, on peut même démarrer la voiture à distance avec une télécommande et on chauffe à l'avance. Donc quand on entre dans la voiture, elle est déjà chauffée. Donc on peut être quelque part où il fait moins 25 degrés, mais nous on se sent dans la chaleur. On est bien. L'homme a atteint un certain palier qui fait qu'il a de moins en moins de l'Éternel et il finit par se considérer lui-même comme Dieu. Et beaucoup sont devenus leur propre Dieu, ils sont devenus leur propre modèle. Et ça, c'est aussi très dangereux parce qu'on ne doit pas être son propre modèle. Ce n'est pas normal. Notre modèle, c'est Dieu lui-même. Et la perfection va avec le modèle. Nous allons expliquer ça. C'est quoi la perfection? La perfection vient d'un verbe latin, même en grec c'est pareil, c'est le fait de faire jusqu'au bout, de faire complet. C'est aussi l'absence de défaut, l'absence de manquement. Et dans cet univers, Dieu seul est parfait. En lui, il n'y a point de défaut. Il est total, il est complet. Il n'y a pas d'erreur. Dieu, bien sûr, quand on dit Dieu, il y a aussi son entourage. Hein. Tout ce qui est tout autour de lui, c'est parfait. Les anges, voilà, les constructions autour de lui, c'est parfait. Mais après, il y a eu altération sur terre. Et nous avons tous cette trace-là de ce qui a été avant, qui nous dérange dans nos cœurs. C'est ce qui est écrit dans l'Épître aux Romains. Même les gens qui n'ont pas entendu clairement parler de Dieu à travers la Bible, cherche une sorte de perfection. On le voit dans la façon de cuisiner, dans la façon de s'habiller, dans la façon de construire les choses. Il y a toujours une recherche de perfection parce qu'autrefois, tout était parfait avant le péché. Et nous devons comprendre que la vraie explication de la perfection va avec la logique du modèle. Quand quelqu'un fait un tableau, qu'est-ce qu'il fait? Il a un modèle réel, un homme, une femme, un paysage, et il copie le modèle sur le tableau. C'est comme ça que c'est ça qu'on appelle la perfection, c'est-à-dire une copie parfaite, une copie exacte de l'original. Si vous voulez, si on veut comprendre le mot perfection, nous devons avoir cette image-là du tableau. Il y a pas, on ne parle pas de perfection sans le modèle. Parce que tu veux être parfait par rapport à quoi? Il faut qu'il y ait une comparaison. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc c'est Dieu le modèle. Donc il y aura toujours une comparaison avec Dieu lui-même. C'est ça la perfection. Il y a un modèle et j'examine si mon tableau correspond au modèle. C'est ce que nous devons envisager lorsque nous cherchons à comprendre la perfection. Car Dieu seul est parfait, donc sans défaut, abouti, accompli. Et maintenant, puisque Dieu, nous ne le voyons pas, il y en a qui peuvent toujours s'inventer leur Dieu pour dire « je suis parfait », mais selon Dieu, selon en réalité son Dieu à lui. Alors Dieu s'est décrit dans sa parole, la Bible. Donc il s'est décrit dans sa parole et c'est ça la perfection que Dieu veut nous voir suivre. Comment on va connaître Dieu pour l'imiter, pour le copier? C'est dans sa parole. C'est ça la perfection. Donc entrons dans la lecture de la parole. En lisant la parole, nous comprenons qui est Dieu et nous pouvons l'imiter. Et quand on s'éloigne de la parole de Dieu, on ne peut plus imiter Dieu. On va imiter autre chose. C'est ainsi que Jésus, vous vous souvenez, avait dit aux pharisiens et aux autres, « Vous suivez les traditions. Vous mettez la parole de Dieu de côté pour suivre les traditions. Parce que c'est ça qui vous intéresse. Parce que vous ne voulez pas imiter Dieu lui-même. Vous voulez faire votre religion. C'est pourquoi vous créez des choses avant de manger. Il faut faire ceci, faut nettoyer la coupe à l'extérieur. Mais non, Jésus dit, mais c'est l'intérieur qu'il faut nettoyer. Donc vous avez changé la parole de Dieu pour suivre vos traditions. Au lieu d'honorer ton père et ta mère, tu dis, mais j'ai donné les offrandes au temple. Donc, je ne suis pas obligé de m'occuper de mes parents. Jésus dit, là, vous annulez la parole pour suivre votre système à vous. Vous savez, il y a un passage dans Luc au chapitre 1er. C'est une prophétie sur Jean-Baptiste. On dit qu'il va ramener le cœur de père à leurs enfants. Il ne s'agit pas des pères forcément comme nous aujourd'hui. Non, les pères dont il est question, c'est les premiers serviteurs de Dieu, les Abraham, Jacob, David et autres, qui devaient être cet esprit-là, la manière dont ils ont travaillé avec Dieu, cette même manière devait se faire aussi avec les successeurs. Et c'est ce qui ne se fait pas. Vous savez, quand vous lisez l'Ancien Testament et vous regardez à ce qu'est le judaïsme aujourd'hui, vous comprendrez que ça n'a rien à voir. Donc le judaïsme, c'est une invention des rabbins. Ça n'a rien à voir avec l'histoire du peuple de Dieu et Donc, c'est-à-dire Israël et Dieu, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas les mêmes réalités, ce n'est pas les mêmes conceptions. C'est pourquoi le Seigneur a dit aux pharisiens, il a dit, mais vous dites que votre père, c'est Abraham, c'est faux. Votre père, ce n'est pas Abraham, parce que vous ne ressemblez pas à Abraham. Vous ne vous comportez pas comme Abraham. Vous avez créé votre religion, votre système. Nous voyons une fois de plus que on ne peut pas parler de perfection sans modèle. Ils disent, mais notre père c'est Abraham, mais vous, il n'est pas votre modèle. Vous ne le suivez pas. C'est une théorie pour vous que votre père soit Abraham. Ce n'est pas une réalité parce que si votre père c'était vraiment Abraham, vous feriez de lui votre modèle. En réalité, il n'est pas votre père. Votre père, Jésus a dit, c'est le diable, puisque vous imitez le diable. Donc on ne peut pas parler de perfection sans modèle. Il y a toujours une logique de modèle quand on parle de perfection. Et d'ailleurs, le frère Paul nous le dit aussi dans Philippiens, toujours au chapitre 3. Philippiens chapitre 3, on avait lu de 12 à 14, mais on peut lire aussi de 17 à 19. Il dit encore, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Donc le frère Paul est clair, il a dit, imitez les gens qui suivent notre modèle. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il est clair là-dessus. Et aujourd'hui, si le judaïsme est ce qu'il est, c'est qu'il y a eu des années de changement de modèle. Aujourd'hui, si vous parlez avec un juif, son modèle, il vous dira pas que c'est David, ni Abraham. Il va vous parler d'un rabbin. Il va vous parler de Rabbi Akiva, un autre rabbin encore, voilà. Ou bien le rabbin actuel qu'il a. Il va jamais vous parler des pères, les gens qui ont bâti l'Israël. Ils vont pas vous parler de ça. Ils vont dire juste qu'ils ont une filiation avec ces gens-là. Mais si te parle, tu auras la réalité, tu verras la réalité, c'est que son modèle, ce ne sont pas ni David, ni Jacob, ni Joseph, mais leur modèle, c'est les rabbins aujourd'hui. Donc, on a changé de système, parce que le système marche avec les modèles du système. Si on change de modèle, on change de système. Et aujourd'hui, quand on parle, on entend souvent le mot mentor, mentor, mentor. Quand quelqu'un dit, mon mentor, c'est un tel, mais c'est un changement de système, donc il a pris un homme comme mentor, comme modèle, mais cet homme-là lui-même n'imite pas la Bible. Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. » Donc Paul, quand il dit qu'il faut suivre les gens selon le modèle que vous avez vu en nous, ce n'est pas par rapport à lui, Paul. Donc Paul n'a fait que répéter ce que Jésus faisait. Alors il dit aux gens, suivez-nous parce que nous on répète ce que Jésus faisait. Ne suivez pas pour suivre des gens sous prétexte qu'ils ont une puissance ou ils ont de la foule qui les suit. Non, il faut suivre les gens qui marchent selon le modèle que vous voyez en nous parce que nous-mêmes, nous ne faisons que ce que nous avons vu Jésus faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de perfection sans une pensée, sans une logique de modèle. Le modèle premier, comme nous l'avions dit dès le départ, étant Dieu lui-même. Mais Dieu est invisible, il s'est manifesté dans sa parole. Et maintenant, certains peuvent dire, mais je ne connais pas tous les versets. Alors, Dieu, encore pour nous faciliter la tâche, il est venu en homme lui-même et il a vécu comme nous pour qu'il soit un modèle facile. Parce que vous savez, quand on regarde quelque chose, c'est beaucoup plus vite saisir la chose que lire, voilà. Mais la lecture nous donne des détails que la vue ne nous donne pas, mais la prise globale de la chose, c'est par la vue que ça se fait. Et c'est beaucoup plus simple. Après, celui qui veut aller plus loin, il peut aller dans le détail par la lecture. Et la parole de Dieu étant Dieu lui-même, puisque c'est dit dans Jean 1 ainsi, Dieu a en plus de cela envoyé son Fils, sa propre image, en chair comme nous, pour que ça soit simple de suivre un homme comme nous. Parce que nous voulons la facilité, et la facilité c'est de voir un homme et d'imiter ce qu'il fait. Les Américains, dans la chair, ils disent que quand tu as vu quelqu'un réussir, commence d'abord par réussir, faire ce qu'il fait, après tu inventeras ce que toi tu veux inventer. D'abord réussis, donc lui il a réussi, imite ce qu'il a fait, ensuite tu inventeras ce que tu as à inventer. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas réussi, qui ne veulent pas imiter ceux qui avancent, ceux qui réussissent. Tout ça à cause de l'orgueil humain. Donc l'homme est devenu son propre Dieu. Il considère que tous les autres ne sont que des humains. Je n'ai à imiter personne. Mais non, la Bible est claire. Soyez mes imitateurs comme moi-même, je le suis de Christ. Paul dit, il faut suivre les gens qui suivent notre modèle à nous. Voilà. Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il a établi sa parole. Il a établi son Fils comme le modèle final, principal, total, mais son Fils aussi a établi des humains pour conduire le troupeau en faisant d'eux des modèles. Maintenant, nous ne sommes pas obligés de suivre n'importe quel humain, nous devons suivre l'humain, prendre comme modèle un homme qui lui-même imite le Seigneur. C'est ce que notre frère Paul nous dit. Lui-même qui imite le Seigneur. Mais nous avons besoin de nous fixer sur des modèles. On ne peut pas vivre une vie chrétienne d'une manière solitaire, isolée, et en se disant, j'ai la parole. Mais oui, mais Dieu a établi dans sa parole, il a dit dans Éphésiens 4, j'ai établi des apôtres, des docteurs, des pasteurs pour être des modèles. Et dans 1 Pierre 5, le Seigneur le dit aussi dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Donc, le Seigneur exhorte tous ceux qui sont conducteurs à être des modèles, c'est-à-dire à ressembler à lui-même Jésus, afin que eux, les autres, les prennent comme modèles beaucoup plus facilement, puisqu'on ne voit pas le Seigneur aujourd'hui physiquement. Alors, par simplification, le Seigneur travaille certains humains, il les purifie, il les brise, il les épure pour faire d'eux des gens qui lui ressemblent fortement afin que les autres imitent aisément. Maintenant, on a connu des échecs. On a eu des mauvais pasteurs, on a eu des mauvais apôtres, on a eu des faux, on en a eu. Moi le premier, on a subi tout ça. Mais est-ce que ça veut dire que la parole de Dieu a changé? La parole de Dieu n'a pas changé. Il y a toujours des vrais. La parole de Dieu n'a pas changé. Moi, je dis souvent cette phrase, je dis, si tu considères qu'il n'y a plus de vrais, mais au moins toi, tu es vrai. Parce que si tu es faux, donc il y a un problème. Donc si tu considères que toi, tu es vrai, deviens un modèle pour les autres. Voilà. Donc si tu considères que, bon, moi je ne vois plus un vrai pasteur dans l'humanité. Bon, quelle est ta situation à toi maintenant? Souvent, les gens de ce genre, de cet acabit-là disent, non, mais moi, c'est bon, moi, je suis la parole. Ah, donc, puisque toi, tu suis la parole, tu imites Jésus, maintenant, constitue-toi en modèle pour les autres. Nous te suivrons. Puisque toi seul es parfait, toi seul suis la parole, nous sommes prêts, nous, c'est ce que nous cherchons. Nous allons te suivre. Mais puisque nous voulons respecter ce qui est écrit dans la parole, Dieu a établi des personnes, des conducteurs. Donc comme Pierre vient d'expliquer là, il a établi pour qu'on suive. Maintenant, on a pu se tromper. Maintenant, aujourd'hui, ne nous trompons plus. Comment on ne va pas se tromper? En imitant, en suivant des gens qui eux-mêmes imitent Jésus. Donc on a la parole qui nous décrit qui est Jésus et on a ces gens-là en face. On doit comparer. Voilà. Et quand on voit que ces gens-là vraiment imitent le Seigneur, on se dit, mais non, c'est de telles personnes que je vais suivre. Et si on n'en voit pas comme nous l'avions dit, donc certainement soi-même nous nous considérons comme bons, alors constituons-nous un modèle. Alors, si nous nous considérons comme mauvais, alors cherchons la face de Dieu pour qu'on soit bon et que les gens nous suivent, nous qui pensons qu'il n'y a plus quelqu'un de vrai. Mais le Seigneur a fait son corps dans l'ordre. Il n'y a pas de désordre. Vouloir démembrer le corps du Christ, ça n'existe pas. On a tous connu des déceptions. Ce n'est pas une raison pour démembrer les choses, pour casser l'Église, le corps du Christ. Au contraire, c'est une raison pour devenir de plus en plus vigilant et exigeant par rapport à la parole de Dieu, exigeant par rapport au modèle que nous devons suivre. Ne pas suivre quelqu'un bêtement, mais toujours examiner par rapport à la parole et avoir une relation franche et libre avec la personne pour poser des questions si on n'a pas compris certaines choses ou certains actes. Voilà, ça doit nous rendre beaucoup plus responsables et non pas nous amener à entrer dans la rébellion et dans le refus d'autorité et dans le refus d'ordre dans le corps du Christ. Et ça a détruit beaucoup de gens, les déceptions anciennes et les complications. Et puis, il y en a qui ont un manque de confiance naturelle en l'homme. Mais ce n'est pas bon parce que le Seigneur a établi les choses ainsi. Maintenant, nous devons toujours considérer le Seigneur comme le seul modèle parfait et les autres comme des modèles de passage. C'est-à-dire, c'est des gens qui nous facilitent de voir Christ parce que aujourd'hui, nous n'avons pas toujours tous les événements de Christ dans notre tête, mais dans les événements de tous les jours, nous pouvons réaliser la grandeur du Seigneur. Je me souviens comment moi je me suis converti. J'ai été épaté par l'amour que m'ont témoigné des bien-aimés que j'ai trouvé au Maroc. Quand je suis arrivé au Maroc, c'était des conditions de vie très difficiles. On avait une bourse très faible et cette bourse suffisait pratiquement qu'à payer notre loyer et juste la nourriture. Et c'était très, très, très difficile. Pour nous en sortir, il fallait qu'on se mette ensemble dans un même appartement, louer l'appartement ensemble, gérer les provisions ensemble et manger ensemble. Et dans ce contexte-là, moi, j'étais pas chrétien, il y a des frères qui vivaient avec nous. Ces gens-là m'ont dépassé parce qu'ils m'ont montré qu'ils étaient supérieurs à la nourriture. Voilà. Vous savez, il y a l'évangile, on avait déjà entendu prêcher. Mais là, j'avais vu l'évangile avec mes yeux. Donc, ils étaient pas là, ils venaient en retard. On leur laissait une petite part par rapport à ce que nous, les présents, avons mangé. Vous connaissez l'adage, hein? Les absents ont toujours tort. Mais malgré ça, quand il revient, celui qui m'a touché le plus, quand il revient, il me demande encore de venir manger avec lui, alors que moi, j'avais déjà mangé ma part. J'ai dit, mais cet homme est fou. Comment, avec la petite part qu'on lui a laissée, il peut m'inviter encore, moi qui ai déjà pris ma part? Je me disais, il est fou. Mais en même temps, j'étais déstabilisé de voir qu'il y a des vrais. Il y a des gens qui sont comme Dieu. Voilà. Moi, je les prenais comme Dieu, donc ils sont comme Dieu, parce que seul Dieu peut être au-dessus de la nourriture. Il faut comprendre le contexte dans lequel nous vivions. La nourriture était reine. Donc manger, c'était quelque chose de capital. Je me souviens, pendant certaines vacances, il y a un moment où on a passé les vacances là-bas, c'était tellement la galère qu'on mangeait une seule fois par jour, et c'était le genre de flocon d'avoine avec du lait une fois par jour. Vous imaginez dans ce contexte-là, la nourriture, c'est le chef. Mais ces gens-là étaient au-dessus de la nourriture. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont? Et le jour où Ils ont fait des enseignements, puisque j'étais dans la maison, mais ils ne me bassinaient pas avec la parole. Ils me laissaient libre. Mais j'écoutais à distance. Mais le jour où ils devaient baptiser les gens, ils sont venus me voir, mais Eric, toi, tu ne veux pas te faire baptiser? Je dis, mais non, mais moi, je suis déjà baptisé. Ils m'ont dit, ah bon? Quand est-ce que tu as été baptisé? Moi, j'ai dit, mais j'avais, quand j'étais bébé. Ils m'ont dit, mais non, ça, c'est pas le baptême. Voilà ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ils m'ont fait lire la parole de Dieu. Ceux qui croiront et qui seront sauvés seront baptisés. Et voilà, ils m'ont expliqué les conditions. Et ils m'ont dit, demain, on a une série de baptêmes à faire. Est-ce que tu veux faire partie du nombre? Vous savez, le chant qu'on chante, « Oh, when the saints go marching in. » Il y a des gens qui dansent, ils ne comprennent même pas ce qu'on chante. « Oh Lord, I want to be in that number. » Donc, le jour où les saints commenceront à monter vers le ciel, moi, je vais faire partie du nombre. Moi, je dis, mais comment? Demain, série de baptême. « Oh, when the, oh Lord, I want to be in that number. » Moi aussi, je vais faire partie de la série de baptême. Donc, et le lendemain, j'ai été baptisé. Parce que ces gens-là, quand je les regardais, j'avais l'impression que j'avais Jésus en face de moi. C'était plus que de la lecture, c'était la réalité. C'est ça les modèles. Les modèles, ça devient une réalité de ce que tu as lu. Vous voyez, il y a des versets qu'on a lus plusieurs fois. Et un jour, on va voir ça physiquement. Quand quelqu'un l'accomplit, on dit, mais c'est ça le verset que j'ai toujours lu. Mais tant que quelqu'un n'appliquait pas ça, tu ne comprenais pas ce verset-là. Les modèles, c'est important. C'est important. Comme je l'ai dit, après, c'est à nous d'examiner le modèle parfait qui est Jésus et de s'attacher à un modèle humain qui ressemble à Jésus parce que c'est l'ordre de Dieu, c'est la structure divine. On ne peut pas vivre une vie d'église comme si on venait dans un cours à l'université. Vous savez, à l'université, on dit à la faculté. Donc vous arrivez, chacun vient quand il veut. Ce n'est pas comme à l'école, il y a la présence, tout ça. Non, chacun vient quand il veut. Moi, j'étais en faculté de mathématiques, mais j'allais parfois suivre des cours en droit. Personne ne m'interdisait. Voilà, donc j'avais des amis, je les accompagnais parfois dans leurs cours. Et quand j'étais au Congo, j'allais suivre des cours en médecine, puisque j'avais des amis là-bas, j'allais me distraire en allant les accompagner. Donc personne n'est interdit. Mais tu prends par ici, tu pioches par là, tu pioches, mais tu n'as pas de suivi. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de construction dans ta vie parce que tu n'as pas un modèle, tu n'as pas un objectif clair. Donc, on doit avoir une image de ce qu'on doit atteindre. C'est très important. On ne peut pas vivre sans connaître ce qu'on doit atteindre comme objectif. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a plusieurs fois, les chrétiens sont comparés à un jardin. Alors, quand je vois là, le printemps est déjà là depuis un bon moment, vous savez, il y a sur la pelouse, il y a dans certaines pelouses, il y a des petites fleurs blanches, jaunes et un peu rouges aussi qui viennent en même temps. Ça fait comme une moquette multicolore. Alors, quand je regarde ça, bien-aimé, je dis, mais c'est ça que, comme ça que Dieu considère les chrétiens, comme ce jardin-là. Alors, je ne me vois pas, quand je regarde ça, haïr quelqu'un. Parce que c'est tellement beau. C'est tellement beau de voir, de s'imaginer que pour Dieu, je fais partie de ces fleurs-là. Je ne vois pas une de ces fleurs-là dire à l'autre fleur, je suis plus belle que toi. Je ne vois pas. Et c'est beau ensemble. Ce n'est pas personnel, c'est comme une moquette avec des fleurs. Et on n'a même pas envie de marcher dessus, j'ai envie que de regarder. Je me dis, mais si c'est nous l'église, c'est comme ça, mais c'est parfait. Donc il faut avoir un modèle. Donc ce jardin-là est devenu un modèle pour moi, c'est cette pelouse-là avec ces fleurs-là. C'est devenu un modèle, je me dis, l'église doit être comme ça. Et quand tu es un modèle, tu construis ta vie en fonction du modèle que tu vois. Tu te dis, voilà ce que nous devons être. Voilà à quoi nous devons ressembler, à ces fleurs. Et il y a dans un autre passage, je crois, Ésaïe 61, on dit qu'on est des térébintes de justice, une plantation pour la gloire de Dieu. J'aime beaucoup ce verset-là. Les serviteurs de Dieu sont une plantation pour la gloire de Dieu. Alors imaginez, c'est quoi une plantation? Est-ce que vous avez déjà visité une plantation? C'est bien ordonné, hein? Les arbres sont bien espacés, ce n'est pas comme les fruits qu'on va cueillir dans la forêt. Hein? Les arbres sont bien espacés, bien alignés, c'est propre, soigné. Et maintenant, c'est des térébintes. Les térébintes, c'est des gros arbres qui portent d'autres, des animaux, beaucoup de choses. C'est des térébintes de justice, une plantation pour la gloire de Dieu. Quand je fais toutes ces images, je dis, mais non, je ne peux pas détester un frère. Je ne peux pas jalouser. Puisque c'est ensemble qu'on est la plantation de Dieu. Il faut avoir des modèles. Les modèles, ça peut être les images que Dieu donne lui-même dans sa parole. On dit, mais voilà à quoi nous devons ressembler. C'est très important, bien-aimé. Sans modèle, tu cours vers quoi? Tu vas vivre une vie chrétienne où tu vérifies juste que tu n'as pas péché. Ah, je n'ai pas péché aujourd'hui, je ne dois pas pécher. Mais non, ça, ce n'est pas la vraie vie chrétienne. La vraie vie chrétienne, c'est courir vers un but. C'est ce que Paul nous a expliqué dans Philippiens 3. Je cours vers un objectif. Il y a un modèle que je veux atteindre. Il faut avoir ça, ces modèles-là. Et le Seigneur a mis un ordre, lui-même Dieu, sa parole, son fils qui est venu en modèle, et son fils a déposé d'autres dons, dans Éphésiens 4 c'est écrit. Et après, chaque chrétien peut être notre modèle. Parce que l'esprit parfait est dans chaque chrétien. Le chrétien est imparfait, mais il a en lui l'esprit parfait. Et cet esprit parfait peut, à un moment donné, produire une perfection de Dieu. Voilà, qui nous transforme, qui nous étonne. Vous savez, lui-même Dieu, il est écrit dans Jacques qu'il aime à la jalousie l'esprit qu'il a mis en nous. Donc Dieu sait qui est l'esprit de Dieu en nous. Et parfois on peut voir dans un chrétien un comportement qui nous dépasse, qui nous montre clairement la réalité de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit que nous devons nous soumettre les uns aux autres parce que chacun de nous peut être le modèle de l'autre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Beaucoup sont devenus des grands journalistes. Donc, ils sont là à regarder les défauts des autres. Ça les empêche maintenant de voir les bons côtés des autres qui peuvent être un modèle pour eux. Ils sont là à regarder. Donc, ils veulent que on soit comme eux, ils veulent. Parfois, ce qu'ils reprochent aux autres n'est parfois pas un péché. C'est parfois pas une erreur. Mais eux, ils ont décidé dans leur conception que c'était une erreur parce qu'ils n'ont pas discuté avec la personne. Vous savez, quand Jésus-Christ laissait ses disciples cueillir les épis, un vrai juif pieux allait dire « c'est une erreur ». Mais une petite discussion allait suffire pour comprendre que ce n'était pas une erreur. Quand Jésus va manger chez Zachée, les gens ont dit quoi? Il va manger chez un homme pécheur. Ils ont considéré ça comme une erreur. Mais une petite discussion allait éclairer la chose, ils allaient comprendre que ce n'est pas une erreur. Parce que quand on a la volonté, non pas de saisir le modèle de Dieu dans l'autre, mais trouver la faille chez l'autre pour ne pas, surtout qu'il soit notre modèle, mais on va trouver toujours. Et on va bien sûr beaucoup se tromper. Nous avons le modèle de Dieu dans sa parole, dans son fils Jésus. Maintenant, à chaque fois qu'on voit ça chez l'autre, on fait de l'autre notre modèle. Maintenant, l'autre n'est pas parfait. Vous savez que beaucoup de chrétiens ont loupé beaucoup de choses à cause des rumeurs dans les milieux évangéliques, les rumeurs sur les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament ou les traditions. Vous savez, quand on dit David, dans un milieu chrétien, on pense à deux choses. Il a tué Goliath et puis il a fait l'adultère avec Bathsheba. Voilà l'image qu'il y a dans le milieu chrétien propagée par les serviteurs. Ce n'est pas les vrais serviteurs, parce qu'un vrai serviteur doit reconnaître le modèle de Dieu. Propagée par des serviteurs non affermis peut-être, comme quoi David, ben, il était léger parce qu'il a pris la femme d'autrui. Bien-aimé, est-ce que toi-même tu as lu l'histoire de David? Il ne faut pas suivre pour suivre. Si vous lisez l'histoire de David, vous allez comprendre la phrase que Dieu lui-même a dit sur David. C'est l'homme selon mon cœur. Mais quand on est là à suivre juste des gens qui ont fait des études théologiques et qui viennent te dire, mais oui, mais David, bon, il était léger. C'est faux, David n'était pas léger. Il est tombé, donc le chrétien peut tomber, l'apôtre peut tomber, le pasteur peut tomber. Mais entre commettre un péché et ne plus être un modèle, ce n'est pas la même chose. Paul explique bien qu'il n'a pas encore atteint la perfection, mais il court. Alors quand quelqu'un court vers la perfection, on peut courir avec lui. On ne dit pas que la personne est parfaite, mais on dit tout simplement qu'il court vers la perfection. Et David, bien-aimé, je ne veux pas, parce que si je commence à parler de David, ça prend toujours du temps, mais lisez vous-même l'histoire de David. Quel bruit on fait circuler sur Samson, coureur de jupons. Bien-aimé, il ne faut pas blaguer avec Dieu. Je vous donne un conseil tranquille. Les noms qui sont dans l'Ancien Testament, ne vous amusez pas à en parler mal. Parce que c'est Dieu qui a mis un cachet sur eux. C'est pourquoi il a mis dans la Bible, pour qu'on les imite. Et c'est écrit dans 1 Corinthiens que ce qui a été fait avant, c'est pour nous. 1 Corinthiens chapitre 10. C'est pour nous, afin que nous ayons des éléments sur quoi on peut se reposer pour vivre. On ne dit pas qu'on doit imiter le péché de David. On ne dit pas qu'on doit imiter l'erreur d'Abraham. Mais imitons le modèle de Dieu dans ces gens-là. Est-ce que vous savez que Samson était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère? Il faut faire attention, bien-aimé. Est-ce que vous savez que Samson, le jour de sa mort, il a tué plus de gens, de Philistins, que quand il était vivant? Ça veut dire que finalement, Samson a atteint la mission de Dieu. Est-ce que toi, tu as atteint la mission de Dieu? Il faut faire attention, bien-aimé. Parce que Samson, aujourd'hui, il est avec Dieu parce qu'il a atteint l'objectif. Parce qu'on a dit la perfection, c'est quoi? C'est atteindre l'objectif. Samson, son objectif, c'était de libérer les enfants d'Israël de l'esclavage des Philistins. Maintenant, dans sa faiblesse de la chair, il a fait des bêtises. Mais puisqu'il avait le feu de Dieu en lui, il avait l'amour de Dieu dans son cœur. Le jour où les cheveux ont repoussé, il s'est dit, il faut que j'atteigne ma mission. Il a dit, Seigneur, laisse-moi mourir avec les Philistins. Qui va faire la prière pour mourir? Seul Jésus est parti jusqu'à la mort. Et Samson a fait cette prière. Il a dit, je veux mourir avec les Philistins, mais libérer ton peuple. Il a atteint son objectif. Bien-aimés, ne prenons pas les erreurs des gens pour en faire une occasion de chute pour nous-mêmes. Cherchons le modèle de Dieu dans les gens. On est là à examiner les erreurs pour dire, c'est pourquoi je n'ai pas envie d'être avec les chrétiens. C'est pourquoi je ne veux plus l'autorité. Maintenant, bien-aimé, tu te trompes, tu sors de la parole de Dieu. Comme beaucoup de gens sont sortis en négligeant les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament. On sort. Et c'est ce qu'on voit, ce qu'est le judaïsme aujourd'hui. C'est devenu une grande escroquerie. Parce qu'ils sont sortis de la parole. Ils n'ont pas voulu suivre David, ni Joseph, ni tous ces gens-là, ni Moïse. Et Jésus leur a dit ça clairement. Restons dans la parole, bien-aimé. On ne peut pas vivre seul comme ça. On doit avoir une image, un modèle à suivre. Et quand on a ça, en fonction de la parole de Dieu, on se construit beaucoup plus rapidement. On doit être attaché à une suite. Et le Seigneur, quand il prophétise la venue de Jean-Baptiste, la venue future d'Élie, il dit qu'il va faire que le cœur de père aille vers les enfants. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons comme Abraham, Isaac et Jacob, Joseph, tous ces gens-là. Nous devons ressembler à ces gens-là, l'image parfaite étant Jésus-Christ lui-même. Ensuite, Dieu établit des autorités au milieu de nous. Si nous pensons qu'elles ne sont pas semblables à Christ, il ne faut pas être avec eux, alors, avec elles. Mais si on est avec ces autorités, c'est parce qu'on a trouvé la part de Christ en eux, en elles, il faut suivre cette part de Christ-là. Mais d'une manière suivie, ce n'est pas comme on venait piquer un enseignement à la faculté, à l'université, mais d'une manière suivie, parce que c'est ça le modèle. Est-ce que vous avez vu quelqu'un faire un tableau? Il fait la fenêtre aujourd'hui de la maison et il va dormir. 10 jours après, il revient, il fait la verre. Non, il fait ça d'une manière suivie. Il regarde, il fait, il regarde, il fait. Ou bien, quand on fait un modèle humain, le modèle, il a mis le bras comme ça. Donc, toi, tu dessines, après, tu vas, je vais boire un café, reste comme ça. Mais qui va rester comme ça? Mais non. Donc, quand tu vas revenir, il sera plus comme ça, il sera comme ça un peu là. Voilà. Donc, donc ce n'est plus le modèle. Donc, quand on parle de modèle, il y a un suivi. Il y a un suivi, il n'y a pas de cassure. C'est important. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui manquent d'énergie parce qu'il n'y a pas ce suivi, il n'y a pas ce. Voilà. Cette lutte-là pour marcher dans ce sens-là. Donc, c'est une lutte. Et à nous de prier que Dieu nous dévoile le modèle qu'il a établi pour nous. C'est important. Mais c'est le schéma de Dieu, le travail que Dieu a placé dans sa parole. En conclusion, je veux dire ceci, bien-aimé. Nous devons avoir foi en Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons échoué autrefois à devenir parfaits que nous devons arrêter de chercher la perfection. Nous devons toujours chercher la perfection. Nous devons avoir Jésus comme image, comme modèle. Savoir que Jésus est humble. Savoir que Jésus pardonne. Savoir que Jésus ne dépendait pas de l'argent. Aujourd'hui, on prêche à gauche, à droite, l'argent. Mais Jésus a laissé la trésorerie auprès d'un voleur. Il savait que Judas était un voleur, mais c'est lui qui était le trésorier. Parce que Jésus savait qu'il dépendait de Dieu. Il n'a pas flippé en disant, mais Judas va partir avec l'argent. Non, s'il part avec l'argent, Dieu va remplacer. Donc Jésus ne dépendait pas de l'argent pour commencer à demander l'argent aux gens, dire si vous s'aimez, vous allez... Non. Donnez aux serviteurs, faites ceci. Non. Le Saint-Esprit convaincra chacun d'utiliser l'argent selon les enseignements qui sont dans la Bible. On n'est pas là à flatter, à dire multiplier l'argent. Il est écrit dans 1 Timothée 6, celui qui cherche à s'enrichir tombe dans des pièges. Maintenant, on aime écouter les prédications où on nous dit comment on va s'enrichir. Mais bien aimé, tu vas partir où avec cet argent-là? Un jour, tu mourras. Tu vas faire quoi? La vraie vie, c'est vivre de la foi en Dieu. Tu sais que Dieu s'occupe de toi. Il s'occupe de tout. Voilà. Tu as la paix. Ce n'est pas l'argent qui donne la paix. On sait que Jésus, il marchait dans l'obéissance à son Père. Voilà. Son Père, c'était son modèle. Donc on imite Jésus. Il est écrit dans Jean 5, 17. Jésus dit, je ne fais que ce que je vois faire mon Père. On imite Jésus. Il faut qu'on ait son modèle en face de nous. La douceur de Jésus. La paix de Jésus dit, je suis doux. Il dit, je suis doux. Et humble de cœur. On imite ça. On imite aussi la vérité de Jésus. Jésus n'a pas hésité à dire en face la vérité aux gens. Voilà. On imite l'esprit de sacrifice du Seigneur. Au lieu d'accuser, Jésus est venu sauver. Au lieu de condamner, il est venu sauver. Il y a une fois, quelqu'un qui m'a appelé, qui a commencé à me parler du comportement d'une première personne qui était en quelque sorte, entre guillemets, mais ce n'est pas forcément ça, entre guillemets, méchante envers une deuxième. Et la première était, entre guillemets, chrétienne. Et la personne, dans la manière dont elle parlait, elle semblait elle aussi en colère et elle devenait méchante par rapport à ce qu'elle dénonçait. Moi, j'ai dit, mais tu es en train de faire la même chose. Tu dis que cette chrétienne n'a pas de bons sentiments, de bons comportements par rapport à l'autre, mais la façon dont tu en parles, c'est comme si toi aussi, tu commences à nourrir les mêmes sentiments que tu dénonces. Donc, c'est pas normal. C'est pourquoi le Seigneur a dit, quand tu relèves ton frère, relève-le avec douceur, de pas que toi-même tu ne pêches pas. Parfois, la façon dont on critique les mauvais comportements des autres, on le fait avec haine, avec esprit de supériorité, et finalement, bon, on n'est pas meilleur. Mais Jésus, lui, il sauvait. Il a dit, femme, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Il sauve et il communique la vie. Nous devons sauver et après communiquer la vie, dire il ne faut plus pécher. C'est cela, bien-aimés. Nous ne devons pas, parce que certains font des erreurs, nous considérer supérieurs à eux. Nous avons le modèle de Jésus, nous avons le modèle des serviteurs qui sont dans la Bible. Les Joseph, Moïse, Samson, David. On a le modèle de leur vie, là où l'image de Dieu a été claire dans leur vie. On a tout cela. Imitons ça, bien-aimés. On a Paul, on a Jean. Pourquoi on a tous ces gens-là? On commence à imiter les faux pasteurs américains qui ont des commandes de 23 000 dollars. Vous savez, le jour du jugement, Dieu te demande... Moi, je m'imagine cette question-là. Dieu, le jour du jugement, il demande à certains chrétiens, « Toi, tu as imité qui ?» Oui, mais le pasteur américain, mais tu as vu le pasteur américain dans la Bible? Elle sort de là. Voilà ce que Dieu va dire. Toi, tu as vu un pasteur américain dans la Bible? Dans la Bible, il y a Joseph qui a fait des années en prison par amour pour Dieu sans désobéir. Dans la Bible, il y a Joseph. On lui a proposé de prendre la femme d'autrui. Il a refusé par amour pour Dieu. Dans la Bible, il y a Daniel qui est entré dans la fosse au lion. Amen. Ça, c'est... Dieu te dit, mais mes serviteurs, il a été dans la fosse au lion, c'est pas lui qui t'a suivi. Tu suis qui? Bien-aimé. Dieu va poser la question, dans ton comportement, tu as imité qui? Parce que les gens vont dire, mais la Bible était grosse, Seigneur, je ne pouvais pas lire. Mais bon, d'accord, mais j'ai placé des humains pour qu'ils soient une image. Et toi, tu as imité qui? Béni in. Quatre anges, allez, sortez-le d'ici. Sortez-le d'ici. Parce qu'il y a des gens qui ont payé de leur vie pour imiter Dieu. Toi, tu ne vas pas les imiter. Tu imites celui qui utilise Dieu pour, payer, pour gagner sa vie. Les gens comme Paul. Ah, Paul. Dans 2 Corinthiens 11, il dit, j'ai vécu toutes les sortes de souffrances. Les jeûnes, les veilles. Les tempêtes, les faux frères, les séditions, les rébellions, mais tout ça à cause du Seigneur. Il a dit, j'ai même combattu des bêtes à Éphèse pour annoncer l'évangile. Voilà des gens qu'il faut suivre. Des gens comme Jean, qui a été exilé à Patmos à cause de l'annonce de l'évangile. Des gens comme Pierre, qui a été, il paraît, crucifié à l'envers, parce qu'il n'a pas voulu être crucifié à l'endroit pour respecter, pour ne pas être comme son Seigneur. Des gens comme les Richard Rembrandt, pour notre époque, les Watchman Nee, les Alan Yuan, qui ont fait 22 ans, oui, Alan Yuan a fait 22 ans en prison en Chine, à cause de l'amour pour Dieu, en laissant 7 enfants à l'extérieur, bien-aimés, 22 ans en prison. Mais voilà, Alain Yuan allait s'enrichir en ayant des limousines. On n'est pas contre les belles voitures, mais ce n'est pas ça l'objectif. On a beaucoup de gens à imiter. Ne choisissons pas les gens qui imitent Satan. Choisissons les gens qui imitent Dieu et qui aiment Dieu. Les Hudson Taylor, qui a servi Dieu sans moyens. Voilà des gens, les George Miller, qui ne demandait l'argent à personne, mais qui intercédait pour que Dieu ouvre le ciel. Il avait beaucoup d'orphelinats, mais il ne voulait pas demander l'argent. Il priait que Dieu envoie l'argent. Mais on a préféré choisir les mauvais comme imitation. C'est comme modèle, mais c'est notre problème, bien-aimé. Le jour du jugement sera grave. Dieu nous ne jugera pas parce qu'on est imparfait, mais il nous jugera parce qu'on a pris le mauvais chemin. Voilà. Dieu sait qu'on est imparfait, mais quel chemin nous avons pris pour entrer dans la perfection. Quels sont nos modèles? Imitons les gens qui imitent eux-mêmes le Seigneur. Imitons les chrétiens qui imitent eux-mêmes le Seigneur. Même si ça paraît, leur vie nous paraît très difficile. Parce que vous savez, vous pouvez écouter tous les bons enseignements du monde. Mais si vous refusez d'imiter les gens qui enseignent, il y aura un problème toujours. Ou alors ces gens-là n'appliquent pas la parole qu'ils enseignent. Mais s'ils appliquent la parole qu'ils enseignent, et vous venez juste prendre l'enseignement, mais quand vous voyez leur vie, ah, moi je ne peux pas vivre comme lui, il exagère. Ah ben, ce qu'il est, ça vient de ce qu'il enseigne. Maintenant, toi, tu veux prendre ce qu'il enseigne, tu ne veux pas vivre comme lui par la foi ou bien dans la sainteté parce que tu estimes qu'il exagère. Ben, au lieu de dire plutôt, Seigneur, fais-moi grâce que je progresse aussi à ce niveau-là de foi, je progresse à ce niveau-là de sainteté, on peut dire, ah non, lui, il exagère. Ah bon? Dieu va dire, mais comment, pourquoi tu écoutais ses enseignements alors? S'il exagérait, il ne fallait pas écouter les enseignements. Il faut écouter les enseignements qui sont vrais, sans exagération. Voilà. C'est cela, bien-aimé. Dieu est notre modèle. Jésus, son Fils, notre modèle. Sa parole, les serviteurs de la Bible, les serviteurs d'aujourd'hui qui imitent le Seigneur et tout chrétien qui imite le Seigneur est notre modèle. C'est ça que nous devons chercher dans nos maris, femmes, parents, enfants, chrétiens. Qu'est-ce qui en eux reflète l'image de Christ parfaite? Imitons cela. Et restons dans une logique où nous avons des modèles à suivre, des objectifs à atteindre. C'est ça la perfection. C'est ça la vérité. Nous sommes libres avec Dieu de nous trouver ces modèles-là, mais quand on les a trouvés, imitons ces modèles-là. Ne nous créons pas notre propre évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous venons prier que tu nous aides à appliquer ta parole. Quand Paul dit dans Philippiens 3 d'imiter les gens qui marchent selon le modèle qui est en eux. Et il dit encore dans 1 Corinthiens 11 d'être les imitateurs, ses imitateurs à lui, comme lui l'est le Christ. Seigneur, nous prions que tu nous aides à entrer dans cela. Nous prions, comme c'est écrit dans 1 Pierre 5 aussi, que les anciens, les responsables sont comme les modèles du troupeau. Seigneur, agis de sorte que nous ne soyons pas dans une logique d'université, mais que nous soyons dans une logique de communion, de discipula, afin d'atteindre la perfection décrite dans Éphésiens 4, d'atteindre la stature parfaite de Christ. Et aide-nous au cas où nous n'avons pas encore d'autorité. Dirige-nous vers les autorités que tu as choisies pour nous. Et si on n'en trouve pas, peut-être c'est nous-mêmes qui sommes cette autorité-là. Que tu nous aides à entrer dans notre appel, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous refusons de briser le corps du Christ. Nous refusons de changer d'évangile, de changer de parole. Nous voulons demeurer dans ta parole, Seigneur. Merci d'agir et de nous amener à la perfection. Au nom de Jésus-Christ.